Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Theresa May tente le tout pour le tout. La première ministre britannique propose que l'accord qu'elle défend permette d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit, espérant encore arracher un oui lors d'un quatrième et ultime vote des parlementaires. Précision à suivre à Londres avec Antoine Gignot.
Aux États-Unis, des manifestations pour défendre le droit à l'avortement ont eu lieu dans 300 villes hier, jusque devant la Cour suprême à Washington. Reportage dans ce journal.
Alors que Washington et Pékin s'affrontent autour du géant chinois des télécommunications Huawei, le Sud-Coréen Samsung profite de la crise, nous dira Frédéric Ojardias.
En France, c'est une première, les détenus peuvent voter par correspondance depuis leur prison pour ces élections européennes.
Et puis au procès Balkany, blanchiment et corruption au menu du second volet de ce procès. Précision avec Florence Turme dans un instant. Et puis la question du jour, Guillaume.
Huawei sans Google, vers une balkanisation du web. On posera la question à Alain Rallet, il est professeur émérite à l'université de Paris-Saclay.
Theresa May propose d'inclure la possibilité d'un second référendum sur la sortie de l'Union européenne. Dans son discours hier depuis Downing Street, la première ministre britannique a une nouvelle fois exhorté les parlementaires à la suivre en tendant la main à la gauche en proposant des garanties sur les droits des travailleurs et en proposant à la droite le maintien du pays dans une union douanière.
J'ai écouté avec attention ceux qui soutiennent un second référendum. Je ne pense pas qu'il faille emprunter ce chemin, car il faut mettre en œuvre le résultat du premier référendum et non demander au peuple britannique de voter une seconde fois. Mais je suis consciente du caractère authentique et sincère de la position de beaucoup de membres de cette Chambre. Le gouvernement va donc inclure dans l'introduction de la loi sur l'accord de retrait la nécessité d'un vote sur la tenue d'un second référendum. Et ce vote se tiendra avant que la loi sur l'accord de retrait soit ratifiée. Ainsi, les députés qui veulent un second référendum pour valider un accord doivent voter pour cet accord de retrait afin de l'obtenir.
Tout pour espérer encore arracher un oui de la part des parlementaires pour éviter un Brexit sans accord, le fameux no deal, alors qu'ils ont déjà dit non à trois reprises. Et Antoine Gignot, ce nouveau compromis ne semblait pas prêt de changer hier l'avis des parlementaires.
L'emballage a changé, mais à l'intérieur du paquet, c'est toujours le même accord et il est toujours aussi mauvais. Réaction sans ambiguïté de Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche repousse catégoriquement la proposition de Theresa May et il n'est pas le seul. Lisa Nandy, chargée au sein du Parti travailliste de chercher un compromis avec les conservateurs, explique qu'il n'y a aucune chance qu'elle vote en faveur du texte. À droite, c'est encore pire. Le groupe des conservateurs eurosceptiques s'oppose à l'unanimité au projet. Et plusieurs députés qui soutenaient jusqu'ici la première ministre réclament sa démission. Theresa May propose de laisser les parlementaires voter pour savoir s'ils veulent un deuxième référendum. Inacceptable, disent-ils, elle veut laisser temporairement le Royaume-Uni dans une union douanière. Solution frustrante, commente Dominic Raab, candidat à la direction du parti. La première ministre a demandé hier soir l'arrêt des débats corrosifs, mais pour elle, les difficultés ne font sans doute que commencer.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture.
Aux États-Unis, Sophie Delpont, les défenseurs du droit à l'avortement ont manifesté hier dans plus de 300 villes américaines.
Ils s'inquiètent de l'adoption par plusieurs États de lois particulièrement restrictives sur l'IVG. La dernière en date, en Alabama, où l'interruption volontaire de grossesse est désormais interdite, à une seule exception près, en cas de danger pour la vie de la mère. À Washington, c'est devant la Cour suprême des États-Unis que ces manifestants s'étaient donné rendez-vous. Sur place, c'est un reportage de Grégory Phillips.
Le lieu du rassemblement, évidemment, est symbolique. La Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance judiciaire du pays, qui en 73 a rendu le fameux arrêt Roe contre Wade et qui a légalisé l'avortement au niveau fédéral. Moi, j'ai 67 ans, dit Janice, et j'étais là il y a 50 ans. Donc je suis vraiment très énervé de devoir me battre encore pour cela aujourd'hui. Dans la foule, quelques hommes, beaucoup de femmes, de toutes les générations. Jasmine a 18 ans, furieuse, depuis que l'Alabama a voté cette loi interdisant l'IVG, même en cas d'inceste ou de viol. Moi, je suis étudiante à l'université. On sait que les jeunes femmes de mon âge, elles peuvent se faire agresser sexuellement. Si ça devait m'arriver, ou à l'une de mes sœurs, je veux qu'on continue à avoir le choix. Sur les marches de la Cour suprême, on voit défiler une poignée de candidats à la Maison Blanche et actuellement en course pour l'investiture démocrate. Il paraît assez évident que le droit à l'avortement sera une question centrale pour 2020. C'est un sujet pour aujourd'hui, pour dans un mois, pour l'année prochaine, dit le sénateur et candidat Cory Booker, jusqu'à ce qu'on soit certain que ce droit constitutionnel sera préservé. Dans un sondage récent, un peu plus de 70% des Américains pensent qu'il ne faut pas remettre en cause ce droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Grégory Philips à Washington pour France Culture. Deux nouvelles mises en examen dans l'enquête sur les mondiaux d'athlétisme qui doivent avoir lieu cet automne au Qatar. Le directeur général de Bein Sport au niveau mondial est mis en examen pour corruption active. Youssef Al-Obedli est soupçonné d'avoir été impliqué dans un virement de fonds entre une entreprise qatari et une société sénégalaise propriété de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, lui aussi mis en examen. Youssef Al-Obedli, qui est également président de la chaîne sportive Bein Sport France, est un proche du patron du PSG. Plus de précisions dans le journal de 8h sur France Culture. Direction maintenant la Corée du Sud, où les fabricants d'électronique suivent de très près le bras de fer entre les États-Unis et Pékin autour de Huawei. Alors que Washington multiplie les mesures contre le numéro 2 mondial de fabrication de smartphones, accusé de faciliter les activités d'espionnage de la Chine, le numéro 1 mondial du secteur, le sud-coréen Samsung, pourrait bien être le grand gagnant de cette escalade. Les explications de Frédéric Ojardias, le correspondant de RFI pour France Culture à Séoul.
Samsung peut se frotter les mains. Google a interdit à son principal concurrent, Huawei, d'utiliser des applications aussi incontournables que YouTube, Gmail et Google Maps. Google refusera même d'équiper les prochains smartphones Huawei de son système d'exploitation Android. Les analystes font remarquer que comme Samsung vend aussi des téléphones Android similaires à ceux de Huawei, le géant sud-coréen sera le principal bénéficiaire de cette interdiction. Pas sur le marché chinois qui est très verrouillé, mais sur les autres marchés étrangers. Plus de la moitié des smartphones Huawei sont vendus hors de Chine. Avant cette décision américaine, le numéro 1 mondial Samsung, 23% de part de marché, perdait rapidement du terrain face à Huawei, le numéro 2, qui compte 19% de part de marché et qui affiche une très forte croissance. Samsung devrait aussi profiter des déboires de son concurrent dans le secteur crucial et très sensible des équipements 5G, la prochaine génération d'Internet mobile ultra rapide. Les États-Unis soupçonnent Huawei de placer dans ses produits des puces destinées aux activités d'espionnage de Pékin. Mais la Corée du Sud étant un allié très proche de Washington, Samsung est épargné par ses soupçons. À la bourse de Séoul, l'action de Samsung Electronics a augmenté de plus de 3% depuis le début de la semaine.
Frédéric Ojardias.
Et on en reparle d'ailleurs dans quelques instants avec un spécialiste, Alain Rallet, qui est professeur émérite à l'Université de Paris. Saclay, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, tout autre chose, c'est une première, Sophie, des détenus votent depuis leur prison pour les élections européennes.
En France, depuis lundi et jusqu'à ce soir, un vote par correspondance permis par une loi et un décret du mois de mars dernier. Les détenus, qui ne sont pas privés de leurs droits civiques, bien sûr, peuvent glisser un bulletin dans une enveloppe placée sous scellé jusqu'au dépouillement de dimanche. C'est une première en France. Et les détenus semblent intéressés pour utiliser ce nouveau dispositif, selon Romain Perret, sous-directeur des missions à la direction de l'administration pénitentiaire.
On est très satisfait de l'effet induit à double titre. D'abord parce qu'il y a plus de 5000 votants, personnes admises à voter, ce qui est très significatif par rapport aux données dont on disposait jusqu'à présent, qui est la référence de 2017, par exemple, la plus récente, pour les élections présidentielles, où c'était à peu près 1200 détenus qui avaient pu voter, soit dans le cadre de permission de sortir, soit par procuration. Là, plus de 5000 personnes admises à voter dans ce cadre-là, en complément des autres possibilités qui demeurent du vote par procuration ou de la permission de sortir, c'est de ce point de vue-là effectivement très satisfaisant. Le deuxième élément satisfaisant, c'est aussi le mouvement que ça induit au-delà de la procédure du vote en elle-même, qui est effectivement extrêmement formalisée. La participation des personnes détenues s'est traduite par des choses un peu moins formelles, un peu moins institutionnelles, qui sont le débat autour de la citoyenneté, le débat autour des élections et le débat autour de l'Europe, avec des mobilisations très concrètes comme l'élaboration de journaux internes ou d'éditions spéciales faites par les personnes détenues autour des élections européennes, de l'Europe et de la citoyenneté plus largement.
Des propos recueillis au micro de Rosalie Lafarge. Rosalie qui vous emmènera au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour le reportage de la rédaction à 7h24 sur France Culture et franceculture.fr. Hier soir, le candidat tête de liste Europe Écologie Les Verts tenait un meeting à Paris. Yannick Jadot a appelé les jeunes à voter massivement dimanche. Hier, Martine Aubry a apporté son soutien au candidat tête de liste Place Publique PS Raphaël Glucksmann en l'encourageant à garder la nuque raide en citant les conseils de François Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon était à à Toulouse pour soutenir la liste France Insoumise menée par Manon Aubry. Le Premier ministre Édouard Philippe se trouvait en meeting à Valenciennes pour appeler les marcheurs à être des militants acharnés, selon ses mots. Alors que dans Lyon, Marine Le Pen a appelé les Gilets jaunes à voter pour la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Patrick Balkany n'en a pas fini avec la justice. Blanchiment et corruption sont au menu du second volet du procès, avec le volet consacré à la fraude fiscale, volet à l'issue duquel le parquet a requis 4 ans de prison à l'encontre de Patrick Balkany et 10 ans d'inéligibilité pour les deux époux. Le tribunal se penche à partir d'aujourd'hui et pour un mois encore sur le volet blanchiment et corruption. Florence Thiom.
C'est effectivement le volet le plus important de ce procès en deux parties, le plus lourd aussi pour les époux Balkany, car il ne s'agit plus seulement de fraude fiscale, mais de blanchiment habituel de fraude fiscale aggravée. On y retrouve les deux luxueuses propriétés dissimulées du patrimoine officiel, la villa Pamplemousse de Saint-Martin, qu'Isabelle Balkany a finalement admis avoir achetée grâce à un héritage, et le riad de Marrakech, dont les époux Balkany nient toujours être propriétaires. Deux acquisitions qui ont conduit les juges d'instruction à enquêter sur des montages financiers complexes. C'est une société constituée au Liechtenstein par une fiduciaire suisse qui détient la Villa Pamplemousse et une SCI marocaine propriété d'une société panaméenne, celle de Marrakech. À la tête de cette dernière société s'inscrit le nom de Jean-Pierre Aubry, l'homme de confiance des Balkany à Levallois et celui de l'avocat Arnaud Claude qui a accompagné le montage financier. Ils se retrouveront tous les deux aux côtés de Patrick Balkany et de son fils Alexandre, poursuivis pour avoir souscrit des baux de location fictifs. À ce stade des débats, il manque encore un homme sur le banc des prévenus, le richissime saoudien Mohamed Al-Jaber, représenté par son avocat. C'est lui qui en réalité aurait réglé la vente du riad en contrepartie de l'attribution d'un très juteux marché immobilier à Levallois-Perret, d'où les accusations de corruption qui pèsent sur lui et sur Patrick Balkany, délit passible de 10 ans de prison.
Florence Thiom. Le temps, du soleil en majorité ce matin, quelques nuages sur la moitié ouest, mais du beau temps quand même en majorité. Aujourd'hui, les températures sont comprises en moyenne entre 15 et 22 degrés, 15 degrés à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 18 à Paris, 19 degrés à Lyon et à Nice et maximum 22 degrés à Perpignan.